Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être à nouveau ici. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, je ne sais pas si je dois parler dans le micro ou pas. On va l'avancer un petit peu, voilà. Si je ne suis pas très audible, dites-le moi, hein, que... Voilà. Alors, merci de m'avoir invité encore une fois. Michel, mon épouse, n'est pas là aujourd'hui, mais elle vous salue tous très cordialement. On a entendu qu'elle était malade, mais je vous rassure, les choses sont en progression, en bonne progression. Et de toute façon, elle est dans la main du Seigneur, ça nous le savons. Elle vous salue bien et elle est de tout cœur avec nous encore aujourd'hui. Je suis aussi réjoui parce que l'année dernière, lorsque je suis venu dans cette salle, il y a deux personnes que je connaissais, que j'avais rencontrées en Israël. Aujourd'hui, il y a 8 personnes que je connais, que j'ai rencontrées en Israël dans cette salle aujourd'hui. Alors c'est formidable, il y a une croissance, non? Alors je vais vous parler, oui, d'Israël. En introduction, je voudrais commencer mon message par un texte bien connu dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Au chapitre 2, les versets 11 à 22. Je le lis, je l'ai écrit le texte, donc je ne vais pas prendre ma Bible. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Jésus le Messie, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Messie. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Etc., etc. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au verset 22, vous le lirez vous-même chez vous. Pour moi, ce texte qui a été écrit par l'apôtre Paul vers la fin de sa vie, alors qu'il était en prison à Rome, c'est-à-dire vers l'an 60-65 à peu près. Il faut se souvenir que Paul était vraiment contemporain de Jésus. Donc vers l'an 60 à 65 est bien d'actualité encore aujourd'hui. Pour moi, ce texte est toujours d'actualité. Ce texte nous parle notamment au verset 14 de renverser le mur de séparation, l'inimitié. Et plus loin, il est parlé de réconcilier, réconciliation. Mais renverser le mur de séparation entre qui et qui? Réconcilier qui avec qui? Paul le dit clairement aux versets 11 et 12. Il parle d'un côté des Juifs, les circoncis, et de l'autre côté des païens, les incirconcis. Paul nous parle de rapprochement, de réconciliation entre juifs et non-juifs de l'époque, et dans la bouche de Paul, les non-juifs dont il parle, ce sont les croyants en Jésus, d'origine païenne, qui sont devenus les chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes, nous, les descendants, en quelque sorte, de ces incirconcis dont parle Paul ici. Je disais que ce texte reste pleinement d'actualité, et je dirais même plus que jamais. Et pourtant, on pourrait bien penser que, on aurait pu penser que cette exhortation de Paul, datant du 1er siècle, serait devenue réalité entre-temps. On pourrait penser que le mur de séparation entre juifs et chrétiens aurait été aboli depuis longtemps, que la réconciliation entre juifs et chrétiens serait effective depuis longtemps. Force est de constater, je pense que vous en êtes bien conscient, force est de constater qu'il n'en est rien encore aujourd'hui, après 20 siècles. Alors je voudrais vous parler de cela aujourd'hui, et le titre de mon message sera « Pourquoi se tenir aux côtés d'Israël ?» Je voudrais aborder ce thème sous deux aspects. L'aspect des raisons, donc pourquoi, hein, pourquoi nous tenir aux côtés d'Israël? Premièrement, un aspect de raison spirituelle, biblique, fondamentale, enracinée dans la parole. Et un deuxième aspect, des raisons plus humaines, voire humanitaires, ou spirituelles, mais spirituelles dans un autre sens, moins fondamentales, je dirais. Alors, premièrement, abordons d'abord les raisons spirituelles, bibliques, fondamentales. Israël est un pays dont Dieu dit et redit dans la Bible qu'il lui appartient. Dieu parle dans la Bible d'Israël comme d'aucun autre pays. Il a suscité Israël pour être lumière parmi les nations. À ses débuts, l'Église était entièrement juive. Et les premiers chrétiens en Jésus étaient tous juifs, Jésus étant juif lui-même. C'est à partir de l'annonce de l'évangile aux non-juifs, aux païens, aux gentils, notamment par l'apôtre Paul au début, que l'Église commence à connaître des assemblées de non-juifs ou des assemblées mixtes avec des juifs et des non-juifs. Un passage important dans lequel l'apôtre Paul traite de la question des Juifs, ce sont les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Et je vous recommande, on ne va pas le faire là aujourd'hui, mais je vous recommande vivement une relecture et une étude approfondie chez vous de ces trois chapitres, 9, 10, 11, oui, trois chapitres. Il est dit notamment que les Juifs sont les prémices, le premier peuple par Abraham à comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance. La parole de Dieu appelle les Juifs à la racine et les non-Juifs les branches. Romains 11, verset 16 notamment. Alors je voudrais vous donner maintenant trois raisons d'ordre spirituel fondamentalement, pour prendre position aujourd'hui aux côtés d'Israël. Alors là, il y a quelque chose que j'ai souligné, que j'ai avoir du mal à lire. Donc le premier point, nous devons dire merci au peuple juif pour tout l'héritage qu'il nous a laissé. Donc c'est ça le premier point, nous devons dire merci au peuple juif pour tout l'héritage qu'il nous a laissé. Dieu a choisi un peuple. Il a commencé par un homme, Abraham, à qui il dit que par sa postérité, par Sarah, donc par leur fils Isaac, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, chrétiens, nous avons accès à la bénédiction de Dieu, c'est en premier au travers d'Abraham et du peuple d'Israël, sa descendance dans la lignée d'Isaac. En Genèse 12, 3, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il s'agit d'une alliance avec un peuple, le peuple d'Israël, mais aussi d'une alliance avec une terre, la terre d'Israël. En Romains 9, versets 4 et 5, Paul parle de ses parents juifs en disant: « Eux qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. L'adoption, la gloire, les alliances, etc. L'adoption, c'est le choix de Dieu du peuple d'Israël. La gloire, la présence manifeste de Dieu se révèle au travers du peuple d'Israël. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que l'Ancien Testament, c'est quand même les trois quarts de notre Bible. Hein ? Bien souvent, on va voir le dernier quart. C'est bien, c'est bien. Mais il y a quand même trois quarts avant. Hein ? Au travers du peuple d'Israël, c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, mais aussi d'une bonne partie du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est peuplé de Juifs. Notamment les évangiles où Jésus, pleinement Dieu, c'est vrai, mais aussi pleinement Juif, s'adresse aux Juifs de son temps. L'adoption, la gloire, les alliances. L'alliance abrahamique, choix d'un peuple, d'une terre, d'un pays. L'alliance mosaïque, don de la Torah comme pédagogue pour nous conduire à Dieu. Et la nouvelle alliance par le don de Jésus. Jésus, Messie de Dieu, donné par l'intermédiaire du peuple juif. Jésus, venu comme juif, dit lui-même à la femme samaritaine en Jean 4, 22, « Car le salut vient des Juifs. » Nous sommes ici aux racines même de notre foi chrétienne et de la révélation de Dieu à l'humanité. La base, la preuve, les fondements de notre foi chrétienne, c'est l'existence du peuple juif et la réalité de la terre d'Israël. Comment peut-on être chrétien et nier les sources ou les fondements, les fondations de notre foi? Ça, c'était le premier point. Nous devons dire merci au peuple juif pour tout l'héritage qu'il nous a laissé. Le deuxième point, toujours dans les raisons spirituelles fondamentales, nous sommes liés au peuple juif par là même à la terre d'Israël. Quand nous reconnaissons Jésus comme le Messie, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur qui est venu par les Juifs, nous entrons forcément dans la lignée d'Israël. L'apôtre Paul a dit à plusieurs reprises qu'en tant que chrétiens, nous sommes juifs spirituellement. On peut trouver ça par exemple en Romains 2, versets 28-29. Et la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, en Galates 3, 26-29. Pouvons-nous nier ces paroles? Aujourd'hui, un combat planétaire important est en jeu. Il a pour objet Jérusalem, Israël en tant que peuple, le peuple juif, et Israël en tant que terre, terre géographique, mais aussi Israël en tant que pays, en tant que nation. Peu de nations sont disposées à prendre position pour le peuple juif et pour Israël. Mais la Bible dit que Dieu honorera celles, les nations, qui le feront. Est-ce que les chrétiens prendront position aux côtés d'Israël? Troisième raison d'ordre spirituel fondamental. Voilà, c'est pareil. Dieu a fait des déclarations précises concernant la terre d'Israël qu'il n'a faites à aucun autre et qui n'ont jamais été révoquées. Je ne vais pas citer ici tous les textes, mais simplement donner quelques références. Genèse 17, 7 et 8, Lévitique 25, 23, Deutéronome 32, 43, Psaume 85, 2, Jérémie 2, verset 7, Ézéchiel 38, verset 16, Joël 1, verset 6, ou 2, 18, ou 3, 2, tous ces textes, j'en ai cité quand même pas mal là, hein, tous ces textes parlent de la terre d'Israël qui appartient à l'Éternel, qui lui-même la donne au peuple juif. Quand nous parlons d'Israël, il s'agit à la fois d'une propriété de Dieu, au sujet de laquelle Dieu lui-même a fait des déclarations d'appartenance, et à la fois du peuple de Dieu, à qui Dieu a donné le pays, la terre d'Israël. Et ces déclarations au sujet d'Israël n'ont jamais été données à qui que ce soit d'autre. Elles concernent Israël, et seulement Israël. De plus, Dieu a donné ce pays, cette terre, à Abraham et à ses descendants à perpétuité, pour toujours. Lisons par exemple Genèse 17, versets 7 et 8. Mais il y a d'autres textes hein, comme cela. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, c'est Dieu qui parle, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Le fait qu'Israël ait péché, qu'il ait perdu de son autorité et qu'il ait été dispersé pendant 2000 ans dans d'autres nations n'altère en rien l'engagement de Dieu à son égard et à l'égard de la terre d'Israël. Je vous propose de relire à cet effet Ézéchiel 37 qui concerne le rétablissement d'Israël. Ézéchiel 37, vous le connaissez sous un autre terme, c'est la vallée des ossements desséchés, ça vous dit quelque chose. Eh bien, relisez ce texte, on ne va pas le faire maintenant parce que ça prendrait trop de temps, j'ai peur de déborder, mais relisez ce texte et sachez que ce texte s'adresse à Israël, le rétablissement d'Israël. Et il y a des quantités de textes prophétiques qui parlent clairement à la fois de la dispersion du peuple d'Israël parmi les nations, et cela commence avec des paroles de l'Éternel dans la Torah déjà. En Lévitique 26, 33, en Deutéronome 4, 27, en Deutéronome 28, 64, donc déjà dans les tout premiers livres de la Bible, de la Torah ou du Tanakh, on parle de la dispersion d'Israël. Mais on parle aussi du retour d'Israël sur sa terre depuis les nations. Et là aussi, tout cela commence avec des paroles de l'Éternel dans la Torah. Donc la Torah, c'est ce qu'on appelle aussi le Pentateuque chez nous, hein, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Donc je vous cite des références, une référence, Deutéronome 30, verset 3, par exemple, où on parle du retour, déjà dans le livre de Deutéronome, on parle du retour d'Israël sur sa terre, après la dispersion. Mais on peut lire également des quantités d'autres passages de Ésaïe 11, verset 12, 49, 22, en Jérémie 3, 18, 30, 11, 31, 8, 31, 10, 32, 37 à 38. Ça fait beaucoup hein, de références, je suis désolé. Mais on n'a pas le temps de les prendre là maintenant, c'est pas grave. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes qui parlent de cela. En Ézéchiel, Ézéchiel 11, 17, 28, 25, 34, 13, 36, 24, 37, 21, 37, 25, 39, 28. En Amos, Amos 9, 14, 15. En Zacharie 10, verset 6, etc., etc. Tous ces textes nous parlent d'un retour d'Israël dans sa terre, sur sa terre, après la dispersion parmi les nations. Il ne fait aucun doute, selon la Bible, que la terre d'Israël appartient à Dieu lui-même, qui l'a confiée de toute éternité au peuple d'Israël, au peuple juif. Voilà ce que j'appellerai les trois raisons fondamentales bibliques pour lesquelles nous, en tant que chrétiens, nous devrions nous tenir à côté d'Israël. Je vais les redire rapidement. La première raison, c'est nous devons dire merci au peuple juif pour tout l'héritage qu'il nous a laissé. La deuxième raison, nous sommes liés au peuple juif et par là même à la terre d'Israël. Et la troisième raison, Dieu a fait des déclarations précises concernant la terre d'Israël qu'il n'a faites à aucun autre et qui n'ont jamais été révoquées. Alors ça, c'était trois raisons d'ordre biblique fondamental, d'ordre spirituel fondamental. Je voudrais maintenant aborder d'autres raisons qui sont moins fondamentales dans le sens moins basé sur la parole de Dieu, mais qui sont des raisons plus humaines, voire humanitaires, ou avec une consonance spirituelle, mais moins fondamentale. Je voudrais donner six raisons de nous placer, nous chrétiens des nations, aux côtés d'Israël. Ce sont des raisons donc moins spirituelles, moins basées sur la parole de Dieu. Je les appellerai des raisons humaines, voire des raisons humanitaires, ou des raisons d'ordre spirituel moins fondamentales. La première raison, le conflit dans lequel Israël est engagé actuellement, bien malgré lui, n'est pas à son initiative. En général, le monde considère aujourd'hui les Palestiniens comme les opprimés. Cette idée est largement répandue par les médias et pénètre également fortement les milieux chrétiens, au nom d'une défense du faible contre le fort, les faibles étant les Palestiniens et les forts les Israéliens. Cette notion est complètement faussée. Reprenons quelques points fondamentaux. La terre d'Israël a été donné au peuple juif par un engagement sur le plan humain, là on est beaucoup plus sur le plan humain là hein, maintenant. La terre d'Israël a été donnée au peuple juif par un engagement pris en 1917, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et confirmé par l'Assemblée des Nations en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le but fondamental des nations arabes, et des Palestiniens en particulier, n'est pas d'acquérir une patrie, mais de chasser Israël définitivement de sa terre. C'est un point fondamental à bien comprendre. Les Palestiniens ne cherchent pas à vivre en paix aux côtés d'Israël, ils veulent annuler l'État d'Israël, le faire disparaître. Comprenez bien ceci. Cela veut dire que si un jour les Palestiniens ou les nations arabes d'alentour acceptent un État palestinien, c'est parce qu'ils auront acquis la certitude qu'à plus ou moins longue échéance, ils seront largement dominateurs sur la région et qu'ils pourront réellement chasser les Juifs. Tant qu'ils n'auront pas cette garantie d'hégémonie, ils refuseront tout accord de paix. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Israël ne demande qu'à vivre en paix avec ses voisins et n'a aucune velléité d'expansion. Bien au contraire, il serait prêt à de grandes concessions pour obtenir une paix durable avec ses voisins. Mais Israël est aussi lucide et il sait jusqu'où il peut faire ou ne pas faire confiance aux Palestiniens sans mettre sa sécurité et son existence en danger. Toutes les guerres entre les nations arabes ou les Palestiniens et Israël étaient toutes à l'initiative des premiers. Israël n'a jamais fait que se défendre, d'abord dans des guerres classiques mettant en jeu des États, puis dans les guerres du terrorisme palestinien. Ça, c'était donc une première raison. Le conflit dans lequel Israël est engagé actuellement, bien malgré lui, n'est pas à son initiative. Une deuxième raison, il s'agit d'un conflit lié à des puissances spirituelles, bien plus qu'un conflit politique ou territorial. L'animosité impitoyable d'une grande partie du monde arabe envers Israël n'est pas due uniquement à des causes politiques, mais mue par des puissances spirituelles qui ne seront satisfaites que lorsque Israël cessera d'exister. Il s'agit d'une haine profonde qui remonte à la mise à l'écart d'Agar. Vous vous souvenez d'Agar, la servante de Sarah et la mère d'Ismaël. Donc la mise à l'écart d'Agar au profit de Sarah, l'épouse d'Abraham. Relisez notamment les chapitres 16 et 21 de la Genèse à ce sujet. Ces forces spirituelles s'opposent à la volonté de Dieu et elles dépassent l'humanité et les bonnes volontés humaines. C'est la raison pour laquelle toute action politique ou toute volonté de persuasion ne peut aboutir aujourd'hui. L'homme est complètement dépassé dans ce conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Une troisième raison, prendre position pour Israël, ce n'est pas s'opposer aux Arabes en tant que tels, ni s'élever contre le droit des Arabes israéliens à une existence paisible, sûre et prospère en Israël. Il y a environ, je ne sais pas si vous le savez, 15% d'Arabes qui vivent en Israël. Soit plus d'un million d'Arabes. Ils sont de nationalité israélienne et la plupart sont heureux de vivre en Israël et ne souhaiteraient pas vivre ailleurs. Je ne parle pas ici, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas ici des territoires revendiqués, des territoires palestiniens, mais uniquement de la population arabe vivant dans l'État d'Israël même. Dieu n'a pas de parti pris contre quelque être humain que ce soit. Chaque être humain est une créature de Dieu. Et Dieu n'a aucun parti pris, certainement pas contre les Arabes, descendants d'Ismaël, lui aussi fils d'Abraham qu'il a choisi. Je crois qu'il faut être bien clair là-dessus. Le peuple arabe est un peuple que Dieu aime et que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi aimer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Notre position pour Israël n'entraîne aucunement une attitude anti-arabe. Notre devoir de chrétien est d'aimer chaque créature de Dieu, mais de s'opposer aux puissances spirituelles qui les animent quand elles sont contraires à Dieu. Quatrième raison, l'esprit qui anime l'hostilité à l'égard d'Israël s'oppose tout autant aux chrétiens qu'aux juifs. Je n'ai pas le temps de développer ce point ici, mais nous devons être bien conscients que la haine de l'islam, notamment à l'égard du peuple juif, est tout aussi vivace à l'égard des croisés, comme ils les appellent, c'est-à-dire des chrétiens. Une différence fondamentale entre l'islam d'un côté et le judaïsme et le christianisme d'un autre côté, c'est que le premier, donc l'islam, a des aspirations de domination et d'hégémonie, alors que les seconds, le judaïsme, le christianisme, ont des aspirations de paix et d'amour. Je voudrais ici peut-être ajouter un tout petit point. Il ne faut pas mélanger les personnes, les musulmans, qui sont adeptes de l'islam mais que l'on peut aimer en tant que personne, et l'esprit qui est derrière, qui est l'islam. Et je vais dire quelque chose, j'espère que je vais choquer personne, mais pour moi, il n'y a pas un islam comme ci ou un islam comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. On parle souvent maintenant d'islam et d'islamisme, en faisant une différence entre islam et islamisme, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne fais pas de différence. Ce sont des puissances spirituelles adverses, contraires à Dieu. Mais autant je fais une différence là, autant je ne fais pas de différence dans les personnes. Et je crois qu'il est important qu'en tant que chrétiens, nous manifestions vraiment de l'amour aussi pour les musulmans en tant que personnes. Et j'espère que je suis clair là, loin de moi tout esprit de condamnation vis-à-vis des hommes, des personnes. Hein. Que ce soit bien clair. Un cinquième point, une cinquième raison. Qui est le faible et qui est le fort? On a parlé tout à l'heure des faibles et des forts. Les faibles, les Palestiniens, les forts, les Israéliens. Moi, j'ai une autre opinion de ça. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même et je le redis. Israël est un pays minuscule. 20 000 kilomètres carrés contre 16 millions de kilomètres carrés pour le monde arabe environnant, qui est donc 800 fois plus grand qu'Israël. Ça, c'est la superficie. Israël a une population de 7 800 000 habitants, dont plus d'un million d'Arabes israéliens. La population des pays arabes environnants est de 340 millions d'habitants, soit 45 fois plus, 45 fois la population d'Israël. Et dans ce décompte, je n'ai pas inclus la Turquie et l'Iran, qui ne sont pas des nations arabes. Ce sont des nations où l'islam est fortement présent, mais ce ne sont pas des nations arabes. Donc, moi, je vous pose la question. Qui est le faible? Qui est le plus petit? Qui est le plus faible? Je vous laisse le soin de répondre. Si, en tant que chrétiens, nous voulons défendre les faibles, à mon avis, ce n'est pas vers les Palestiniens que nous devons nous tourner, mais bien vers Israël. Enfin, une sixième raison, le monde chrétien a une double dette énorme envers le peuple juif. Tout d'abord, la dette par rapport à tout l'héritage spirituel de notre foi chrétienne. Ça, c'est les trois raisons dont je vous parlais précédemment, les raisons d'ordre spirituel fondamental. Donc cette dette, par rapport à tout l'héritage spirituel de notre foi chrétienne, qui est un héritage juif, a commencé par la Bible, la parole de Dieu, et par notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Messie, Yeshua HaMashiach en hébreu. C'était l'objet de ma première raison d'ordre spirituel fondamental. Mais le monde chrétien a également une autre dette envers le peuple juif. Ce sont les 2000 ans d'antisémitisme chrétien que nous qui nous précède, pardon. 2000 ans d'antisémitisme chrétien qui nous précède et que nous ne pourrons jamais effacer. J'en ai déjà un peu parlé ici même il y a un an environ. Rien que le rachat de l'attitude de l'Église chrétienne par rapport au peuple juif devrait nous inciter à nous tenir résolument aux côtés d'Israël. Je n'ai pas le temps là encore d'évoquer cet aspect en détail, mais si éventuellement vous m'invitez une autre fois, je veux bien, si ça vous intéresse, vous parler beaucoup plus en détail de tout cet antisémitisme chrétien. Il y en a des pages et des pages et des pages. Voilà donc au total 9 raisons, 3 on va dire d'ordre beaucoup plus spirituel et 6 un peu d'ordre un peu plus humanitaire. 9 raisons au total pour nous tenir résolument aux côtés d'Israël. Mais je suis persuadé que vous pouvez encore en trouver d'autres, des raisons. Je me suis limité à 9. Vous pouvez rajouter 10, 11, 12, n'hésitez pas. Voilà, je voudrais maintenant, en guise de conclusion, vous dire que je me suis inspiré pour faire ce message d'une toute petite partie, 3 pages, d'un livre, ou plutôt d'un guide. C'est pas vraiment un livre, c'est un guide pratique, que je vous recommande chaudement. Je l'ai là, bien sûr, je l'ai amené. Il s'intitule « Sentinelle sur la muraille de Jérusalem ».« Sentinelle sur la muraille de Jérusalem ». C'est un guide pratique pour prier pour Jérusalem. Alors c'est vrai, c'est un guide pratique de prière, mais pas seulement, loin de là. C'est un guide pratique, je dirais, essentiellement par rapport à Israël en général. Je voudrais vous lire je vous lire peut-être un peu la table des matières, par exemple, je ne sais pas où elle est, voilà. Parce que c'est un livre qui, à mon avis, retrace bien les choses par rapport à Israël. Alors c'est un livre de... c'est des Américains, hein. Robert, mais rassurez-vous, c'est traduit en français. D'ailleurs, un des traducteurs, parce que je crois qu'ils sont deux. Oui, deux. Je connais les deux, d'ailleurs. Les deux traducteurs, Malvin Evanson et Luc Henrist. Est-ce que peut-être certains connaissent Luc Henrist, non ? Luc Henrist, non, ça vous dit rien ? Non. C'est quelqu'un que je vous recommande et il habite pas loin d'ici. Luc Henrist habite à La Louvière en Belgique. C'est pas très très loin. C'est à combien, on va dire, 1 heure de route peut-être. C'est un homme remarquable qui connaît très bien Israël, qui a vécu en Israël lui aussi. Il habite donc, je disais, à la Louvière. Et il a été pendant un certain nombre d'années, je ne sais pas combien d'années exactement, le correspondant pour la Belgique des chrétiens amis d'Israël. Les chrétiens amis d'Israël, je ne veux pas faire trop de publicité, mais ça existe aussi en France, les chrétiens amis d'Israël. D'ailleurs, les gens qui sont à la tête des chrétiens amis d'Israël en France, des amis à nous, habitent à Valence, mais ils sont originaires du nord de la France. Ils sont originaires du nord. C'est André et Hélène Van Nevenhuys. Je reviens là donc pour vous dire les deux traducteurs donc sont Malvin Evanson et Luc Henrist. Les auteurs sont des Américains, Robert Stearns, Miriam Rodlin Park et Dr. Jack Hayford. Ce guide plutôt, parce que je l'appellerai plutôt un guide, je vous lis quelques extraits de la table des matières. Je ne vais peut-être pas tout lire, mais Les conditions de base, si je vais les lire, les conditions les conditions de base pour être une sentinelle sur la muraille, les points spirituels à vérifier pour une intercession efficace. Ensuite, une première section qui s'intitule « Informations essentielles pour la sentinelle » avec « Pourquoi se tenir aux côtés d'Israël aujourd'hui ?» Bon, ce n'est pas exactement mon message, mais enfin, je m'en suis bien inspiré. J'ai rajouté une ou deux raisons, j'ai remanié ça. Ensuite, l'alliance éternelle de Dieu avec le peuple juif et la terre d'Israël, les racines juives du christianisme, le miracle d'Israël à la lumière de l'histoire, l'histoire de l'antisémitisme chrétien et de la Shoah. Ensuite, une section 2 avec « Parler à Dieu, devenir des intercesseurs avertis, prier pour les peuples juifs et arabes, comment prier pour le peuple juif, intercession pour la postérité d'Isaac, comment prier pour les arabes, élever la voix pour Ismaël. » Ensuite, une section 3, parler aux autres, devenir des ambassadeurs éloquents. Donc, devenir des ambassadeurs éloquents, l'erreur de la théologie de la substitution, mythes et idées fausses dans les médias. Il faut savoir que les médias, aujourd'hui, quand vous entendez les radios, les télévisions, aujourd'hui, vous entendez le message qui est distillé en grande partie par les nations arabes, même en France, même dans les médias français. Idées fausses communément admises concernant Allah, un exemple typique de déformation dans les médias, question fréquemment posée par les juifs, comment parler d'Israël à votre pasteur ? Un appel à l'action, et puis ensuite une section supplémentaire, un appendice, le programme de formation des sentinelles sur la muraille, 10 étapes pour organiser un pèlerinage de prière des sentinelles, une annexe comparaison entre l'islam et le christianisme, comparaison entre Dieu et Allah, comparaison entre Jésus et Mohammed. Le Dieu de l'islam est-il le même que celui des juifs et des chrétiens ? Et c'est tout. Et la journée de prière pour la paix de Jérusalem. Voilà, c'est un guide. Faut plus le prendre comme un guide que... c'est d'ailleurs illustré. Faut plus le prendre comme un guide que comme un livre. Alors, j'en ai qu'un seul ici. Je peux le laisser là sur une table pour que vous puissiez le feuilleter un petit peu. Par contre, moi, ce que je veux bien, si vous le souhaitez, attention, je veux pas m'imposer là. Si vous le souhaitez, moi, je veux bien. Si quelqu'un d'entre vous fait, prend des noms, par exemple, je veux bien moi organiser une commande globale, par exemple. Pardon. Oui, on peut l'avoir à la CLC, bien sûr. Enfin, la CLC, en tout cas auprès d'Emet Édition, c'est sûr. Emet Édition, ça, c'est sûr, puisque c'est eux qui l'éditent, Emet Édition. À la CLC, oui, probablement. Ou en tout cas, à la CLC, c'est sûr, ils peuvent s'ils ne l'ont pas, ils peuvent se le procurer, c'est certain. Vous leur précisez que c'est un livre ou un guide de Emet Édition, et il n'y a pas de problème, ils l'ont. Donc, il est au prix, alors le prix exact je ne le connais pas précisément, je sais pas si c'est marqué derrière, non, bon, je sais que c'est au maximum, je dis bien au maximum 20 €. Il est possible que surtout si on fait une commande groupée, qu'on l'ait moins cher, Voilà, j'ai cru voir, mais là je suis pas sûr, qu'il était peut-être à 18 € auprès d'Emet Édition directement. En tout cas, moi, le prix que je connais personnellement, moi celui-là je l'ai acheté 20 €, le prix que je connais comme un maximum, c'est 20 €. Voilà. Je ne voudrais pas que ce mot concernant ce guide nous détourne du message qui était donc de nous tenir aux côtés d'Israël. Et moi, je vous engage vraiment, en tant que chrétien, parce que c'est un témoignage chrétien pour moi, en tant que chrétien, de nous tenir aux côtés d'Israël. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi des chrétiens, je dis bien des chrétiens, arrivent à en venir à haïr Israël. Ça existe malheureusement. Et moi, je vous recommande vraiment de vous tenir aux côtés d'Israël. Le peuple d'Israël en a besoin. C'est la prunelle de l'œil de Dieu. C'est marqué dans la Bible. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous conduise, vous bénisse. Amen. Merci.